et bienvenue à Portrait Vivant, l'émission radio qui esquisse un tableau en mouvement de la communauté artistique de l'École d'art de Sutton. Ensemble, allons à la rencontre des artistes, des jeunes créateurs et des œuvres qui façonnent cette institution incontournable du paysage culturel de l'Estrie. Je m'appelle Ayona, artiste en art visuel. Mon parcours m'a menée aux quatre coins du monde, guidée par une quête d'apprentissage et de rencontres. J'ai fini par m'installer ici, en Estrie, où je découvre une véritable boîte au trésor de personnes engagées, passionnées par leur travail, avec des valeurs d'entraide et de coopération. Aujourd'hui, à Portrait Vivant, nous allons explorer le thème de la cuisine comme véritable forme d'art. Que ça soit par la créativité des chefs ou des fermiers, les couleurs, les textures, même la manière de nourrir notre communauté. Cuisiner est un acte profondément artistique et rassembleur. Aujourd'hui, sur l'émission Portrait Vivant, on a rassemblé une foule de précieux collaborateurs de l'École d'art de Sutton. On va rencontrer Anna Demy, éditrice du magazine Miam pour enfants, Julie Valois, médiatrice culturelle à l'École d'art de Sutton, Dana Cooper, directrice du marché de Sutton qui a enseigné des camps, des ateliers à l'École d'art, Nathalie Riva, une chroniqueuse alimentaire passionnée de ferme et de cuisine qui a aussi enseigné des camps à l'École d'art, Chloé Ostigui, une chef multitalentueuse et propriétaire et fondatrice du traiteur Archipel à Coensville, et Stéphanie Wang, une fermière locale et collaboratrice de longue date.
Moi, c'est Anna Demy. Je suis éditrice chez Miam, qui est un magazine jeunesse sur l'alimentation. Je suis dans le monde alimentaire, disons, depuis que je suis toute petite. J'ai cette chance-là d'être née dans une famille où on cuisinait. On cuisine encore très bien. Donc, on m'a appris beaucoup de choses par la langue, ce qui est, ma foi, déjà merveilleux. Je suis très reconnaissante de ça. J'ai par la suite quand même étudié dans, disons, domaine connexe au monde alimentaire, fait en gestion du tourisme et de l'hôtellerie, concentration, restauration. J'ai une maîtrise en histoire de l'alimentation aussi. Donc, voilà, ça allait comme de soi de faire un projet dans le monde alimentaire à un moment donné dans ma vie. Je pense que c'est important de voir Miam plus comme un outil pour éveiller chez les enfants un amour du monde alimentaire. Donc, même s'il y a une visée éducative, l'enfant ne le sait pas, ne le sent pas. En fait, qu'on veut vraiment qu'il y ait le plus de plaisir possible, que ce soit justement une partie de plaisir de s'initier ou de s'émerveiller devant le monde alimentaire. Absolument. Miam, en fait, a comme mission de reconnecter vraiment tout en douceur autant les enfants que les adultes, les parents, au monde alimentaire, fait qu'à l'environnement qui les entoure. Parce que malheureusement, je pense que cette origine des aliments, on oublie un peu, en fait, ce qu'elle est, d'où viennent les aliments. C'est un peu particulier quand même notre rapport au monde alimentaire dans la mesure où on a la chance d'entrer en épicerie au Québec puis d'avoir un monde, en fait, une biodiversité devant nous qui a aucun lien nécessairement avec elle-même. Il y a des champignons, puis des produits qui viennent d'un peu partout à travers le monde, hors saison. C'est un peu particulier de voir, en fait, des champignons avec des poivrons de serre, avec des poulets tout un à côté. Il y a des choses qui ont peut-être pas de lien, qui ont des liens, mais que dans un environnement à ce temps précis-là, c'est quand même particulier de les avoir ensemble. Et donc, on oublie un peu par cette incohérence-là, l'origine des aliments. Puis je pense que c'est important de juste prendre peut-être un pas de recul, reculer la caméra, puis faire « OK, bon, la pomme de terre, on commence par ça. Ça vient d'où? C'est quoi? Ça sert à quoi? Ça pousse comment? » Puis c'est un peu ça que Miam essaie de faire. Mais encore une fois, c'est pas dans une optique éducative ou morale de faire la morale aux enfants. C'est dans un but de célébrer. Et donc, il faut s'émerveiller de la pomme de terre. Faut la trouver incroyable pour vrai. Faut pas faire semblant, en fait.
Merci beaucoup. Je pense que c'est un magnifique moment avec vous. Et puis, j'apprécie beaucoup. En fait, on voit vraiment quand les gens sont passionnés de ce qu'ils font, ça se ressent. Mm-hmm. Alors, je vous remercie de ce moment de partage.
Bien, ça fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps.
Julie Valois coordonne la médiation culturelle et les activités éducatives à l'École d'art de Satine. Aujourd'hui, elle va partager comment la cuisine d'été du camp nourrit non seulement le corps, mais aussi la curiosité et l'imaginaire des enfants.
Le projet de la cuisine, en fait, c'est un projet qui vient de la part d'Anne-Marie. En fait, c'est de donner cette possibilité-là. Parce que dans les camps, on rappelle que tous les enfants sont nourris. Donc, tous les enfants sont amenés à manger la même chose, mais ce sont des nourritures qui est vibrante, qui est végétarienne, qui est pas très loin aussi du jardin. Donc, ça permet de faire une connexion, que ça soit à travers justement les sens, que ça soit à travers une connexion à la terre, à la personne qui cuisine aussi. Donc, ça permet vraiment de mieux comprendre puis d'apprécier, puis peut-être même de développer un intérêt justement puis une responsabilité par rapport à comment on se nourrit. Donc, la cuisine des été, c'est comme un camp d'une certaine façon, parce que c'est un lieu d'apprentissage à l'intérieur des camps. D'ailleurs, la personne à la cuisine a toujours un magnifique contact avec les jeunes, donc il y a un partage aussi là. Donc, on a vraiment à cœur de présenter en fait des gens qui sont inspirants, qui sont passionnés de leur domaine aux enfants, puis qu'il y ait un échange qui se fasse au niveau des discussions, des discours, des idées.
Et maintenant, on va rencontrer Dana Cooper, qui dirige le marché fermé de Sutton. C'est un lieu incontournable, de produits locaux, biologiques, d'artisanat, il y en a vraiment pour tous les goûts. Dana est passionnée par l'éducation culinaire et va nous parler de comment cuisiner avec les enfants pour éveiller leur amour pour les aliments et leur communauté.
Hi Iona, hi, thanks for having me here. So I've been living in Sutton for the past 19 years, and while here I was a stay-at-home mom for 10 years, and then I started a business called Fresh. In that time, I also became the director of the Sutton Market, where I have been for the past 6 years, and I took that job on because I absolutely adore the market and wanted to have a bit of an impact on the way it progressed and moved forward. So Anne-Marie and I did a few weeks of art camp at my own house on my property, and that was the beginning of the culinary arts camp. They were really, really fun. We did a lot of different activities. We took the kids out fishing. We took the kids out mushroom picking in the wild. We went to the blueberry farm. You know, the kids always had a little sketchbook and watercolors, so they did lots of art there. We did lots of picking, obviously lots of eating, lots of baking. We had a fancy dress party. I think on the last day, the kids were all dressed up in their finest clothes, which is rare in Sutton. But so it was a lot of fun. Really very little structure, loads of fun.
How did that evolve? Did you continue collaborating with the art school?
Yeah, on and off, definitely. For the past few years, I've catered a wedding here last year. I did another workshop for a group of kids from Montreal last year here at the art school. Also, we made dumplings. Yeah, I've been really very interested in what the art school has done. They've accomplished so much. She's accomplished so much, and it's grown. And every time I come here, I'm always wildly impressed at the progress. It's our friends, the architect Stéphane Pratt, who I matched up with Anne-Marie. So yeah, I'm definitely interested in what happens here.
So what is a bit about cooking specifically that really?
let's face it, we need to eat every day. It's an essential part of our lives. And I think that to be able to give kids a passion for cooking and eating well at a young age is going to serve them throughout their entire lives. If you can make it fun, then I think it's going to be even more interesting for them. I think that if you can introduce them to, you know, to new foods, new techniques, foraging, you know, they can learn an appreciation for wild foods, for what's in the forest, for their environment. Hopefully they will grow to take care of that environment, that natural world. Yeah. And it's something that we need to do every day, at least three times a day. So I have kids and now one of them thankfully is cooking for me a couple of times a week, which is fantastic. And I think it's just beautiful to see kids interested in food and, you know, cooking with each other. It brings people together. It brings families together. It brings friends together. It's a wonderful thing to share a meal around a table or wherever you might be with the people that you love. So I think it's a real gift.
Yeah. And it's projects like the ones you offer where you're really getting kids to do hands-on activities where they're really making all those connections. And I think it will affect them as adults.
I think it does too. Absolutely. And you're right. I think it's sharing, it's curiosity, it's understanding. I mean, if you have those initial experiences where you're either working with farms or, you know, starting seedlings off on your own, I mean, so many of those preservation techniques and even gardening have been lost in the past few years or even decades. So we're kind of trying to reintroduce them. The kids at the Sutton School, they start their own seeds. They have a greenhouse now. They have some gardens. So they're also learning about the cycle of life for vegetables. And having that knowledge is incredibly valuable because, you know, in terms of food autonomy and looking out for yourself, then, you know, if you have a little bit of property or even if you have a balcony, you can grow things yourself and be less dependent on the systems that are in place.
On est de retour avec Portrait vivant, une émission de l'École d'art de Sutton et de CIDA 99.fm en Estrie. Aujourd'hui, on se concentre sur la cuisine comme forme d'art et notre prochaine invitée est Nathalie Rivard, qui a animé le camp Big Bang Bouffe à l'École d'art de Sutton. Chroniqueuse alimentaire et passionnée des fermes locales de la région, elle nous partage comment ses ateliers culinaires développent l'autonomie et la créativité chez les jeunes cuisiniers.
Bonjour, mon nom est Nathalie Rivard. J'ai pendant 2 ans eu un camp à l'École d'art de Sutton, le camp Big Bang Bouffe, où on faisait de la cuisine avec les enfants. Ça a été surtout les 9 à 12 ans avec qui j'ai travaillé. Et l'idée du camp, en fait, c'était de leur montrer que la cuisine, ça peut être ludique, intéressant, amusant et qu'ils peuvent être autonomes en cuisine pour faire plein de choses. Donc, pendant les camps, qui duraient 5 jours, les jeunes ont appris à cuisiner plein de choses qui avaient peut-être le goût, comme entre autres, ce qui était très populaire, c'était les fameux bubble tea là, qu'on boit dans les trucs asiatiques. Ouais. Bien, on a montré aux jeunes à faire les billes du bubble tea, de faire le bubble tea. On a fait plein de choses, mais en fait, l'idée, c'est de faire des choses qu'ils ne feraient pas avec leurs parents. Donc, je leur ai montré, je faisais pas des sandwichs ou des salades ou des trucs comme ça, mais des trucs qui étaient un peu déjantés au niveau de la cuisine et puis qui leur donnaient le goût d'explorer puis d'expérimenter. Et à la fin de la semaine, parce qu'au camp d'art, il y a un vernissage à chaque fin de camp, le vendredi. Et nous, c'était une boutique gourmande éphémère où les jeunes faisaient tout ce qui était... on vendait, en fait, la nourriture qu'on avait fait. Et puis, ils étaient très fiers de montrer à leur famille, leurs parents, aux visiteurs, tout ce qu'ils ont pu faire au cours de la semaine. Naturellement, on a mangé des choses qu'on a fait au cours de la semaine. On n'a pas juste cuisiné pour la boutique éphémère, mais il y a des choses qu'on aura fait une deuxième fois justement pour en avoir à la boutique. Puis c'était la fierté de voir dans les yeux des enfants, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait ça. J'ai été capable de le faire sans avoir un parent qui m'aide et tout. Alors moi, j'avais beaucoup de fierté à montrer aux enfants à cuisiner de façon autonome. C'est-à-dire, ils pouvaient refaire les recettes à la maison, mais sans nécessairement avoir l'aide de leur père, leur mère ou un autre adulte. Et puis, c'était ça. Il y avait toujours le côté ludique. L'an passé, on a fait des focaccia. On les a décorés comme des tableaux d'art. On les a fait avec des fleurs, des herbes qui poussaient dans le jardin à l'école d'art. On a fait des pretzels avec une sauce moutarde. On a fait plein de choses. Il y a un truc qu'on fait, ça, je l'ai fait 2 années de suite, c'était les fameuses crêpes hollandaises. C'est quelque chose qui est aussi facile à faire que des crêpes, mais qui est super spectaculaire. Donc, les enfants, il y en a plusieurs qui en refaisaient à la maison. Et puis, je dirais que peut-être la recette qui était vraiment, vraiment populaire, la plus populaire dans les 2 ans, c'était la crème glacée qui était super simple, qui était faite avec 2 ingrédients auxquels on pouvait rajouter des saveurs. Et les enfants retournaient chez eux, puis souvent demandaient aux parents d'aller acheter les ingrédients à l'épicerie pour pouvoir en refaire en soirée à la maison. Donc, moi, je pense que la cuisine, la littératie alimentaire, c'est super important parce que les enfants, comme les adultes, on doit manger au moins 3 fois par jour. On a 3 repas à préparer. On a des collations. Dans le fond, c'est que quand on sait cuisiner, bien, on peut faire des meilleurs choix alimentaires. On peut acheter des produits bruts et faire les choses de façon beaucoup plus économique chez soi que d'acheter des choses qui sont déjà faites, qui sont trop sucrées, trop salées et pas toujours optimales en termes nutritionnels. Donc, on rend les jeunes autonomes. Puis quand ils partent après au cégep, à l'université, bien, ils sont mieux équipés pour se faire à manger. Puis un des exemples que je donne, on peut initier les enfants très, très jeune à la cuisine. Puis une des choses que moi, j'ai vu faire dans mon entourage et qui a fait une grosse différence, c'est ma belle-sœur enseignait dès l'âge de 6 ans environ, les enfants avaient 1 repas à faire par semaine. Puis elle leur disait pas de pizza, pas de burger ou rien. Mais vous choisissez une recette que vous aimeriez faire. Je vais aller acheter les ingrédients avec vous. Je vous aiderai si vous avez besoin à le faire. Mais ce que ça fait maintenant, c'est que mes neveux, ils ont 24 et 22 ans. Il y en a un qui cuisine comme un chef. L'autre, il est capable de faire n'importe quoi en cuisine, il a expérimenté plein de choses. Donc, ça fait que on est mieux habilité dans la vie quand on est capable de cuisiner un peu. Et dans le cadre de l'école d'art, mais c'était de façon ludique, plus artistique, mais qui donnait un petit kick aux enfants. Les enfants avaient beaucoup de plaisir à participer.
Wow, c'est extraordinaire. Merci Nathalie, c'est tellement une belle description et ça donne tellement envie de faire le camp.
Tu sais, on les prend jeunes là, à 9 ans, tu sais, 9-10 ans, on en a eu un même qui avait 8 ans, il était plus jeune que les autres. La première année, le camp, j'avais demandé d'avoir moins d'enfants, fait que j'avais 7 filles, un garçon, et le garçon c'était le plus jeune. Mais ça s'est bien passé. L'année passée, j'en avais 17. Ils étaient nombreux. Mmh. J'avais plus de garçons que de filles. Puis les garçons étaient aussi intéressés par la cuisine que les filles. C'était le fun de voir ça. Qui disait, ben, moi, je faisais un plan pour la semaine, mais j'avais quand même de l'ouverture s'il y avait quelque chose que les jeunes voulaient vraiment, vraiment faire. Je leur disais, ben, on pourrait peut-être enlever ça, puis on pourra faire cette recette-là que vous avez le goût. Puis ça, les enfants, ils ont beaucoup, beaucoup apprécié. Mais moi, c'était vraiment de voir à la fin de la semaine, là, les étoiles dans les yeux des enfants. La fierté là, de vraiment là, de voir, parce que ceux qui viennent au vernissage, c'est beaucoup les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs. Puis de voir, là, ils étaient tellement heureux de montrer, ah, moi, j'ai fait ça. Je voulais montrer des exemples aussi de trucs qu'on peut faire facilement à la maison, comme des popsicles, comme les Mr. Freeze.
Ouais.
Ben, on avait les petites enveloppes, mais je leur disais, ça, c'est un truc qu'on a fait, mais qu'on n'a pas, c'était pas de la cuisine. Je leur disais, ben, vous pouvez faire un smoothie ou acheter des smoothies qui existent, puis vous les remplissez dans les espèces de grands tubes, puis vous avez un Mr. Freeze qui est beaucoup plus santé qu'un Mr. Freeze que vous allez acheter, parce que c'est pas juste de l'eau et du sucre. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on a fait, puis on a fait aussi une version santé du Nutella, mais c'était sucré avec des dattes. Donc, l'idée, c'était vraiment de leur donner des alternatives où c'était goûteux, c'était le fun à faire, facile, quelques ingrédients et puis ils pouvaient laisser aller leur imagination et puis explorer là, puis de faire des choses. Puis on décorait aussi la place, donc la boutique, elle était décorée, tout le packaging, c'est les enfants qui ont imaginé les packaging, parce que la nourriture c'est bien, mais on se nourrit aussi avec les yeux. Donc quand on a des aliments qui ont l'air appétissants dans l'assiette, il me semble que c'est meilleur.
Oui, absolument, absolument.
C'est comme par exemple des fruits, ben si on les coupe en forme d'étoile, comme du melon qu'on coupe en forme d'étoile, ou ben on dirait que le melon il est meilleur. S'il y a comme un petit côté ludique où l'assiette est bien présentée. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a fait dans le cadre du camp. Et puis, c'est ça. Moi, j'y crois vraiment là, à la littératie alimentaire. Puis, tu sais, j'ai eu une discussion avec Anna Demé. Puis, Anna, ce qu'ils font avec Miam, c'est super le fun aussi. Là. Ça montre vraiment aux enfants tout le côté d'un aliment, puis son histoire, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Puis, c'est pas juste pour les enfants. Moi, je vois des adultes, ils sont des fois un peu des pourvus, ils savent pas cuisiner. Puis quand on voit les enfants à côté qui sont capables de se faire un lunch sans que leur mère soit à côté ou leur père, ben je pense que on a déjà fait un bon pas pour dans leur éducation. Moi, ce que je pense, tu sais, le goût des bons aliments, c'est quelque chose qui s'apprend des parents ou des gens de notre entourage. Et puis d'amener justement les enfants sur des fermes, de découvrir les produits locaux. Il y en a tellement. C'est comme à Sutton, il y a des fermes, il y a des producteurs qui font des choses super intéressantes. Et puis, quand on initie les enfants dès leur jeune âge à goûter des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses, je pense que on les équipe mieux dans la vie. Puis de leur dire que les aliments à l'épicerie, ben ça vient de quelque part là. Dans le fond, d'initier les jeunes dès leur jeune âge à aller découvrir. Dans le camp, par exemple, on est allé visiter la chocolaterie. Donc, on a amené les enfants à la chocolaterie. Et puis, c'est Michael Temer qui a montré aux enfants comment se fait le chocolat. Et puis, ça part de où le chocolat? Puis, quand on a le chocolat dans la chocolaterie, comment on fait pour préparer les chocolats qu'on vend? Fait que les enfants, ils ont appris un peu en regardant. Ils étaient derrière la vitrine, ils ont ouvert les fenêtres, les portes. Puis, les enfants ont vu Michael faire des trucs. Et puis, après, on leur a fait goûter. On leur a fait choisir un chocolat. Et puis, ils ont pu goûter puis avoir une meilleure idée de comment ça se fait. Puis, comment on fait pour mettre les saveurs à l'intérieur des chocolats aussi quand ils sont fourrés. Donc, les enfants ont beaucoup aimé ça. L'année d'avant, on est allé au bagel shop. Donc, les enfants ont vu comment ça se faisait des bagels. Puis, ils ont pu goûter un bagel qui sortait directement du four. Donc, de pouvoir amener les enfants sur les lieux même où les choses se passent, je pense que c'est aussi une autre forme d'éducation.
Merci beaucoup, Nathalie, pour cette belle entrevue. On a maintenant Marine qui va nous décrire son expérience du camp Big Bang Bouffe.
Je m'appelle Marine, je fais le camp Big Bang Bouffe et j'ai 12 ans.
Génial. Est-ce que tu pourrais me décrire la boutique que vous êtes en train de faire?
Ben, on vend plusieurs produits qu'on a tous fait ensemble, qu'on s'est amusé à faire. Puis on a tous vraiment aimé ça. Je pense que tout le monde adore faire ça, puis c'est vraiment le fun.
Qu'est-ce que t'as appris cette semaine?
Ben j'ai appris plein d'affaires. Je sais déjà cuisiner, je faisais beaucoup de cuisine avant, mais là j'ai appris des nouvelles techniques, des nouvelles recettes, des choses fun à faire, des petites astuces.
Puis si t'avais à décrire le camp en un seul mot, ce serait quoi?
Fantastique.
Oh, cool, merci.
On est rejoint par Stéphanie Wang, fermière locale de la ferme Le Rizen, qui se spécialise en cultivation de légumes asiatiques. Stéphanie a fait une expo dans le jardin à l'école d'art sur le thème des légumes asiatiques. Elle a aussi lancé un magnifique livre de cuisine. Vous pouvez la rencontrer au marché de Sutton pendant l'été.
Nous, on en fait 30 à 40 différents légumes à chaque année, puis on les vend au marché, notamment au marché de Sutton et aussi à la ferme. Ces légumes-là poussent super bien dans notre climat, mais qui sont juste méconnus parce que on les trouve surtout en épicerie asiatique, qui sont juste près des grandes villes. Alors ici, en région, c'est comme vraiment impossible ou difficile à trouver autrement. Donc, c'est beaucoup de la mise en marché directe, ce qui nous permet de présenter ces légumes-là aux gens. Ils peuvent les goûter, les toucher. Puis c'est ça, avec l'exposition, qu'on voulait aller chercher les cinq sens. Donc, tu sais, aller jouer avec les textures, les couleurs, les odeurs. Parce que ces légumes sont assez variés et très polyvalents en cuisine aussi et au jardin. Donc, il y en a qui préfèrent le climat frais, il y en a qui préfèrent la chaleur. Il y a vraiment façon de s'amuser, c'est ça, autant en cuisine qu'au jardin, puis explorer des différentes choses. Puis c'est tous des légumes qui ont des bonnes valeurs aussi nutritives, riches en fibres et en vitamines. Donc, il y a vraiment juste des avantages à les découvrir. Puis dans le fond, de cultiver, c'est ça, la diversité, ça amène plus de résilience à tous les niveaux. Et aussi, à travers notre projet, toute cette réflexion sur la résilience, la nécessité de conserver les fermes avec une vocation nourricière. Donc, pour nourrir les communautés à long terme dans une perspective d'autonomie alimentaire et de souveraineté alimentaire, ça nous a amené à la réflexion de transférer le Rizen en OBNL afin de continuer notre mission de produire et transformer les légumes asiatiques, mais d'inclure aussi une dimension sociale, donc de travailler à rendre plus accessibles nos légumes. Alors, l'OBNL va nous permettre de nous impliquer dans des projets en sécurité alimentaire, par exemple, aussi tout en synergie avec les cocagnes. Qui les cocagnes, c'est un OBNL à Friedrichsburg, ceux qui sont propriétaires de la terre qu'on loue. Et leur mission, c'est de rendre accessible la terre à des petites entreprises comme nous. Et puis, ils utilisent beaucoup l'agrotourisme pour réaliser cette mission. Donc, par exemple, les tables champêtres, tout l'été, tous les week-ends avec des chefs invités, c'est une belle façon de venir soutenir la mission puis de passer un super beau moment à la ferme et de voir les différentes entreprises qui sont sur place en ce moment. Alors, c'est un peu comme un modèle de ferme du futur qu'on est en train d'expérimenter, de démontrer que c'est possible de faire autrement avec un peu de créativité. Puis je pense que c'est ça une des fonctions de l'art. C'est ça aussi, tu sais, de stimuler cette créativité-là, de sortir de la boîte, essayer de voir les choses autrement. Puis on en a vraiment besoin de plus en plus, je pense, de cette connexion entre l'art et l'alimentation et l'agriculture parce que notre système agricole actuel, régi par les dictats du libre-marché, de l'exportation à l'international beaucoup, c'est ça qui nous a guidés depuis toutes les dernières décennies. Puis là, c'est intéressant avec le contexte politique actuel, où c'est ça, les frontières se referment, les barrières tarifaires. Alors, c'est cette idée de dire, mais comment on peut revenir peut-être à un focus plus vers notre production nationale et régionale.
Chloé Ostigui, fondatrice du Traiteur Archipel, nous parle avec passion de sa démarche culinaire axée sur les produits biolocaux et l'importance de l'économie circulaire dans notre communauté.
Je me présente, moi c'est Chloé, propriétaire de Traiteur Archipel. Depuis maintenant presque 10 ans, on lance notre 10e saison cette année. Je suis une femme de la région. J'ai grandi ici, je reste ici. Puis le projet Archipel a grandi à travers les années en se modulant aux alentours des régions puis des agriculteurs d'ici. Fait que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de sens pour moi là, d'être ici puis d'échanger avec toi.
Merci beaucoup. Dans ta démarche culinaire, comment est-ce que tu vois la cuisine comme une forme d'art?
Je pense que de justement être au Québec dans une région où est-ce que les saisons, c'est tellement des montagnes russes énormes.
Tellement! Comme on a vécu cette année.
Oui,
ouais.
C'est ça. Surtout avec l'hiver qu'on vient de passer. Là. Je pense que c'est l'exemple parfait pour se rappeler que chaque saison apporte quelque chose de différent, de se concentrer sur qu'est-ce que chaque saison apporte. Les légumes sont différents, l'espace mental des clients sont différents aussi. La manière dont l'équipe se forme est différente également. C'est vraiment important pour nous là, de prendre ça comme première manière de comment travailler. Fait que, à travers tout ça, je pense que la création artistique culinaire, ben c'est ça que ça façonne. Là. En été, c'est très coloré, très texturé. T'sais, en automne, on tombe dans le plus réconfortant. T'sais, là, en hiver, énormément de racines. Fait que là, t'sais, c'est d'être un petit peu plus créatif avec les textures et les sauces pour pas que... On se rappelle, là, moi, j'ai grandi avec des navets bouillis puis des carottes bouillies. Puis, t'sais, c'est super, mais t'sais, de présenter quelque chose d'un petit peu plus différent. Puis, ben là, au printemps, on arrive tout en douceur. Hein. Fait que, ouais, la création est vraiment, vraiment au milieu de notre cuisine. Hein.
Ouais, c'est comme, quelquefois, d'avoir des limites, comme de s'adapter au rythme des saisons. Et ce qui est disponible si tu travailles localement.
Oui,
En fait, ça crée plus de créativité, en fait, d'avoir des limites, de pas être... C'est pas tous les aliments disponibles à tout moment de l'année, dans le fond, parce que je pense que dans tes choix, tu choisis de travailler beaucoup avec le bio, le local.
Énormément. Ouais. Puis c'est vrai, quand on a fait la transition, en fait, à l'année 3 du restaurant, on a fait la transition là quasi complète là de nos fournisseurs. Oui, les fermes, mais pas juste les fermes, les fromageries, le lait, l'huile. Quand que c'était le restaurant, on est même allé jusqu'au sel, hein, sel de mer Saint-Laurent, les algues, les produits forestiers. J'ai commencé à trouver ça, un, plus stimulant, deux, plus facile de créer des menus parce que les ananas, ça faisait plus partie de mon spectre de choix.
Oui, c'est ça.
Fait que ça apporte une créativité comment? Oui, ça crée plus d'options, en fait, de se limiter que de ne pas avoir de limites. Hein. Puis je pense que... En fait, je pense que ça donne aussi un petit peu de latitude à nos fournisseurs. Je vais aller même jusque-là.
Wow.
Parce que eux, ils sont capables de nous proposer des choses. On est ensevelis sous les zucchinis. Est-ce que t'as un groupe cette semaine ou est-ce que tu peux les passer? Est-ce que tu as du temps de les transformer? Est-ce que ça leur offre une latitude à eux aussi de savoir qu'ils ont des partenaires comme nous, tissés serrés, qui sont prêts à faire des changements au niveau de leur menu? Hein? Ça apporte aussi une confiance différente avec les clients. Il y en a beaucoup qui viennent faire des dégustations avant leurs événements. Je vais dire majoritairement pour des mariages là, tu sais, des corporatifs peut-être un petit peu moins, mais majoritairement pour des mariages, tu sais, ils ont goûté à un plat qui a été fait en hiver. Hein. Tu sais, de leur dire, est-ce que vous nous faites confiance que rendu à l'été, on vous écrive 3 semaines avant votre mariage, puis de dire, hey là, les pois sucrés, peak of the season, sont incroyables, sont verts, sont vibrants. Est-ce que vous nous permettez de substituer ça dans votre plat? Ça crée un lien de confiance différent aussi, là.
Je sais que t'es passionnée de l'économie circulaire.
Pour
quelqu'un qui arrive, qui est habitué à avoir tous les choix, comment tu décris ça à une personne qui nous écoute pour la première fois?
Je pense que le meilleur exemple que je peux donner de l'impact que l'économie circulaire elle a dans une communauté comme la nôtre, j'avais entendu ça un moment donné dans un, probablement dans un podcast, quelqu'un qui faisait la différence entre payer avec une carte de crédit puis payer avec un 20$ en papier, hein. Tu sais, le commerçant reçoit le 20$ en papier, il part avec, il s'en va à la ferme du coin acheter les légumes puis une douzaine d'œufs pour la maison, la ferme prend ce 20$ là, va chez la quincaillerie ou tu sais le maçon du coin, peu importe, acheter des matériaux qui ont besoin pour la ferme avec le 20$ en argent, le 20$ est resté dans notre communauté et il est resté entier. C'est après ça de payer avec une carte de crédit, ben là ça l'engendre tout un autre type de circuit, mais je sais pas, tu sais c'est des liens différents d'engager ici, d'acheter ici. Tu sais, après ça, c'est des gens qu'on croise partout pour aussi longtemps que vous décidez de rester à l'intérieur de la région. C'est vraiment une grande famille, en fait. Tu sais, je pense que le meilleur exemple, c'est justement l'école d'art, là, hein, de cuisiner d'acheter des fermiers d'ici, des transformateurs d'ici pour cuisiner pour ces enfants-là. Mm-hmm. Souvent, on a été cuisiné chez ces parents-là pour d'autres événements. En fait, c'est toujours important de cuisiner de la même manière et de respecter l'ingrédient de la même manière. Mm-hmm. Parce que finalement, on cuisine toujours pour les mêmes personnes, on cuisine toujours pour le même humain.
De nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette exploration de la cuisine comme forme d'art et lien social. À travers nos discussions avec Anna Demey, Julie Valois, Dana Cooper, Nathalie Ribard, Marie Nouma, Stéphanie Wang et Chloé Estigui, nous avons pu découvrir comment l'acte culinaire transcende le simple fait de nourrir. C'est une véritable occasion de créer, d'imaginer et de rassembler notre communauté. Nous avons également entendu quelques extraits musicaux d'artistes locaux qui rythment notre région avec talent. Dans cette deuxième partie de l'émission, vous aurez maintenant le plaisir d'écouter leurs pièces musicales en intégralité. Un grand merci à toutes nos invitées pour leur généreuse participation et à vous pour votre écoute. À très bientôt pour un autre portrait vivant sur les ondes de CIDI 99.1 FM.
C'était DJ Franz avec Oyo. Maintenant, on va découvrir Christine Maisonneuve avec Shui Bass de son album CBE. Merci à DJ Franz et Christine Maisonneuve pour votre participation au projet Portrait Vivant, une émission de l'École d'art de Sutton et CIDI 99.1 FM. Maintenant, je vous dis au revoir et je vous laisse avec Oubaba Guiva d'Alain Auger de son album Siluja. Merci et à la prochaine fois. Thank you.
Ce projet est rendu possible par le gouvernement du Canada ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.